Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous et à toutes à l'écoute de ce bulletin d'information. Les principaux titres aujourd'hui. L'OTAN souhaite la présence de soldats tchèques en Afghanistan en 2015 et 2016. Les filles lisent plus que les garçons. Et du beach volley, Kolotsova et Slukova remportent le circuit mondial de Berlin. Le chef d'état-major des armées, Petr Pavel, a rencontré ce samedi et dimanche les responsables de la force d'assistance et de sécurité de l'OTAN en Afghanistan. Le dirigeant de l'opération menée par l'Alliance, Josef Dunford, a exprimé le souhait que les soldats tchèques restent en Afghanistan, même au-delà de la fin des opérations militaires de l'OTAN prévues pour la fin de cette année. Dans les mois à venir, le gouvernement ainsi que le Parlement se prononceront sur la présence militaire tchèque en Afghanistan pour les années 2015 et 2016. En l'espace de près de 12 ans, près de 5000 soldats tchèques se sont relayés en Afghanistan et 5 y sont morts. D'après une étude menée conjointement par la faculté de pédagogie de l'université Charles et par l'agence SCC sur les habitudes de lecture des enfants de 8 à 15 ans, les filles lisent plus, on lit 11 livres par an en moyenne, que les garçons 4 de moins. Les jeunes âgés de 8 à 9 ans sont ceux qui déclarent prendre le plus de plaisir à la lecture, un plaisir qui décroît sensiblement avec l'âge. Et c'est entre 10 et 11 ans qu'ils lisent le plus. Les guerres intestines au Parti social-démocrate pourraient avoir eu raison de Josef Žižek, qui a annoncé sa démission de ses fonctions de président de la région de Bohême centrale. En poste depuis un an et demi, il n'a pas donné les motifs de son départ. Celui-ci intervient cependant après que des leaders sociaux-démocrates locaux aient appelé à sa démission. Il critiquait les nominations décidées par Josef Žižek à certains postes clés de l'administration de la région. Monsieur Žižek devrait être remplacé par son principal rival dans le parti, Miloš Petera, qui n'est autre que son adjoint. Du sport et du beach volley. Il y a à peine un mois de cela, les joueuses tchèques de beach volley, Kristina Kolotsova et Markéta Slukova, remportaient l'Open féminin de Prague, le tournoi de beach volley du circuit mondial de la Fédération internationale de volleyball. Ce dimanche, elles ont remis cela avec le Grand Chelem de Berlin, en vainquant les brésiliennes Maria Antonelli et Juliana Felix Berta, 21-14, 18-21 et 15-12. Il s'agit jusqu'alors de la plus importante victoire de leur carrière. Du football, le FC Slovan Liberec connaît son adversaire pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa. Le club tchèque affrontera les Slovaques de Košice. Mlada Boleslav, également qualifié pour ce tour de la compétition grâce à sa troisième place en Gambrinus Liga, devra attendre un peu plus avant de connaître son challenger. Il s'agira du vainqueur de l'affiche entre l'équipe azerbaïdjanaise du Gabala FK et le Shiroki Brieg, un club de Bosnie. Les deux clubs tchèques joueront leur match aller à domicile le 17 juillet prochain et le match retour aura lieu une semaine plus tard. On termine avec la météo. Mardi, on assiste à une avalanche de bonnes fêtes puisque les Yann, très nombreux en République tchèque, sont à l'honneur du calendrier tchèque. Le ciel est lui largement dégagé avec toutefois de possibles averses sur le nord de la Bohême. Les températures maximales vont de 20 à 24 degrés. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information qui vous était présenté par Pierre Ménian. La suite du programme, c'est maintenant en compagnie de Lucie Draselova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de l'émission Langue française de Radio Prague. Un grand merci à Pierre Ménian pour son bulletin d'information. Ce magazine d'actualité revient tout d'abord sur le 25e anniversaire depuis la publication de la pétition « Quelques phrases » rédigée par les dissidents réunis autour de la charte 77. Ce souvenir nous permet de revenir en 1989, quelques mois avant la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie. Au sommaire de ce lundi figure également un retour sur l'événement culturel phare qui a eu lieu dimanche soir au Théâtre Pragois Karlin. C'était dans le cadre du Festival de danse contemporaine et du mouvement que la pièce « Coup fatal » du chorégraphe belge Alain Platel a été jouée à Prague une dizaine de jours après sa première mondiale. Et puis, c'est lundi, et ce n'est pas ravioli, mais c'est une autre tradition. C'est lundi, c'est le sport. Aujourd'hui, portant sur la carrière du cycliste tchécoslovaque, devenu plus tard sénateur, un cycliste qui a gagné une partie de la course en 1986 à Kiev, quelques jours seulement après l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Plus de détails dans la seconde partie de ce programme. Bonne écoute à toutes et à tous. En quart de siècle déjà, la République tchèque fête en cette fin juin un anniversaire important. Le 22 juin 1989 était en effet publié le manifeste Několik vět, quelques phrases, un mois seulement après la sortie de prison de l'un de ses auteurs, Václav Havel. Mais plus que comme une pétition, le texte est avant tout considéré comme une des prémices à l'effondrement du régime communiste en Tchécoslovaquie quelques mois plus tard. L'occasion pour Radio Prague, et plus particulièrement pour Lena Sabadell, de se replonger dans cette période où les jours du colosse au pied d'argile commençaient à être comptés.
Libération des prisonniers politiques, suppression de la censure ou encore reconnaissance des initiatives civiques indépendantes, autant de revendications que la pétition Několik vět, quelques phrases, énumère en 7 points, le tout contenu sur une page. Car l'objectif est clair pour ses auteurs Václav Havel, Jiří Křižan, Stanislav Devati et Alexander Vondra, le texte doit avant tout être court et concis. Et pour cause, s'il ne s'agit pas du premier manifeste à critiquer la situation sous le régime communiste, c'est la première fois que le mur qui sépare la sphère dissidente et le reste de la population tchécoslovaque est franchi. Et le résultat est là, pas moins de 40 000 signatures recueillies parmi des étudiants, des ouvriers, mais également certaines personnalités connues sous le régime, comme la très populaire chanteuse Hanna Zagorova. Les noms des signataires sont ainsi régulièrement cités sur les radios étrangères, Radio Free Europe et La Voix de l'Amérique. C'est d'ailleurs sur ces ondes qu'est lu le manifeste pour la première fois, entre autres par le journaliste et dissident Ivan Medek depuis Vienne.
Nous appelons les dirigeants de notre pays à comprendre que le temps est venu pour de réels et profonds changements du système, et ces changements ne seront possibles et réalisables que s'ils sont disposés à une discussion libre et démocratique.
Ils, ce sont bien entendu les dirigeants communistes que la pétition Několik vět, quelques phrases, appelle également à ouvrir un dialogue sur les sujets tabous du régime, notamment les procès politiques des années 50, le printemps de Prague, ou encore l'épisode de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les forces du pacte de Varsovie qui a précédé la période de normalisation. Si le régime communiste était déjà affaibli au moment de la publication du texte, des représailles ont néanmoins été entreprises contre les signataires d'un texte que le pouvoir a par la suite qualifié de pamphlet antisocialiste et subversif, comme l'explique le journaliste Jan Rejšek, qui a participé activement à la diffusion du texte.
J'ai beaucoup de respect pour la chanteuse Hanna Zagorova, qui a été l'une des seules du pouvoir central à avoir l'honnêteté de reconnaître que les revendications de la pétition étaient logiques et à les approuver. Mieux même, elle a ensuite défendu sa position durant les interrogatoires pénibles du STB et s'y est tenue.
Si le texte n'a pas entraîné à lui tout seul la chute du régime communiste, il s'inscrit néanmoins dans un mouvement de contestation qui n'a eu de cesse de se renforcer à partir du milieu des années 80, pour finalement aboutir à la révolution de velours de la fin de l'année 1989, permettant ainsi l'instauration d'un nouveau régime démocratique. 25 ans plus tard, pour l'un des auteurs du manifeste Stanislas Devati, le constat est positif et les objectifs revendiqués pleinement remplis.
Instaurer un régime totalitaire réclame un jour, comme nous avons pu le comprendre en février 1948. Mais retourner un régime qui se rapproche le plus d'une démocratie demande 10 ans. Le communisme a eu pour conséquence de laver le cerveau des gens, ou comme j'ai l'habitude de le dire, d'abîmer leur âme. Et nous portons encore tout cet héritage en nous. La route est et sera de toute façon longue. Cela nécessite de la patience et je pense que nous suivons le bon chemin. Si on regarde les revendications qu'il y avait à l'époque du communisme, on se rend compte qu'elles ont été remplies.
Na konec, když se člověk podívá na ty požadavky, které tehdy byly, tak ty byly vždycky splněny. Pour ce qui est de l'état actuel du pays, et en particulier les scandales de corruption qui alimentent régulièrement la chronique, Alexander Vondra, autre plume qui a participé à la rédaction du manifeste, considère que la situation n'est pas aussi catastrophique que sous le régime communiste et porte donc un regard plus sage.
Nous sommes désormais capables de réaliser nous-mêmes un régime vertueux, tout comme nous pouvons choisir de produire un régime néfaste et défaillant. Dans cette optique, je dirais que cela fait 25 ans que nous assistons à un miracle, et certainement pas à une catastrophe, qui est un mot que je ne peux pas accepter.
Après Vienne et Amsterdam, Prague était la troisième ville à accueillir dimanche Coup Fatal, le nouveau spectacle des Belges Alain Platel et Fabrizio Cassol. 10 jours à peine après la première mondiale, le public du festival de danse contemporaine Tanets Praha a ainsi découvert non seulement une fusion unique entre la musique baroque et les rythmes traditionnels congolais, mais aussi un regard inédit sur la culture de la sape et des sapeurs au Congo.
Nous prenons beaucoup de risques de présenter Alain Platel seulement 10 jours après la première mondiale. Alors j'espère que tout ce projet avec les musiciens, les artistes de Congo va être quelque chose d'extraordinaire.
Ces propos étaient ceux de Ivona Kreutzmanova, la fondatrice et directrice de Tanets Praha au micro de Radio Prague, quelques jours avant le début de la 26e édition du festival. Dimanche, Ivona Kreutzmanova n'a certainement pas été déçue par Coup Fatal, car c'est par de longues ovations debout que se sont achevées les 2 heures de danse et de la musique au théâtre pragois de Karlin. Ce qui fait de Coup Fatal une expérience inédite, c'est d'abord la combinaison de l'art de la musique baroque, transmis par le contre-ténor Serge Kakuji avec des instruments musicaux congolais, le tout alterné de rythmes traditionnels. Lui-même à l'origine de ce projet, Serge Kakuji explique que depuis son départ pour l'Europe, il a toujours nourri le désir de lier ces 2 univers culturels et de raconter son expérience de départ et de retour au Congo.
C'est des choix assez conséquents que je faisais. Je dis, bon, tel morceau, si je vais raconter cette histoire, comment ça va marcher? Par exemple, le morceau « Que faro senza erudice » qui parle « J'ai perdu mon érudice ». Pour nous, c'est pas que j'ai perdu une femme. Bien sûr, il y a ce côté aussi dedans parce qu'en fait, voilà, tout se mélange. Mais pour nous aussi, j'ai perdu des amis, j'ai perdu ma patrie. On ne m'accueille plus de la même façon. Donc comment je vais retrouver ça? Mais je sais que je vais retrouver ça, mais je ne sais pas encore comment. Et aussi, cette perte, ça revient aussi aux autres instrumentistes, parce que 3/4 d'entre eux, et c'est leur première fois de venir en Europe, de faire ces grands voyages. C'est la même histoire, je suis sûr qu'ils entendent.
Coup Fatal, c'est aussi une excursion dans la vie de musiciens congolais. Adepte de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, les danseurs et musiciens de Coup Fatal offrent une expérience de ce qu'est la SAP et, comme l'affirme Rodriguez Vangama, le chef des musiciens, la SAP est bien plus qu'une simple mode vestimentaire.
La figure des sapeurs, c'est, comme on le dit souvent à Kinshasa, c'est une religion, religion qui t'aide. Donc c'est la musique congolaise marche de pair avec la SAP. Donc il faut être bien habillé, bien rasé, bien parfumé. La musique congolaise marche toujours avec la sape.
Un sapeur est donc bien habillé, bien rasé, parfumé, mais aussi un peu un obsédé avec son sexe, ce qui fait que la pièce est pleine de références à la force sexuelle et à la masculinité. Les danseurs et musiciens excellent dans des chorégraphies construites autour des gestes caractéristiques des sapeurs, effectués devant et derrière, un décor fait des douilles de munitions du sculpteur congolais Freddy Tsimba, référence à la guerre civile. Enfin, à travers plusieurs styles musicaux comme le folk, le jazz ou le funk, la transmission de l'ambiance des sapeurs de Kinshasa est complète. Pour découvrir de plus larges extraits des interviews de Serge Kakoudji et Rodriguez Vangama et en savoir plus sur le spectacle Coup Fatal, rendez-vous lors d'une prochaine rubrique culturelle. Et c'est la fin de ces faits et événements. Notre programme se poursuit maintenant par la traditionnelle rubrique sportive. Le 26 avril 1986, explosait un des réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl pour ce qui reste une des plus graves catastrophes industrielles de l'histoire. Quelques jours plus tard, le départ de la course de la paix, épreuve cycliste alors la plus prestigieuse dans le pays de la sphère communiste, était donné depuis Kiev, à une centaine de kilomètres du lieu de l'accident. Ainsi, durant 4 jours, le peloton d'une épreuve considérée comme le Tour de France de l'Europe de l'Est a parcouru des routes d'une république socialiste soviétique d'Ukraine contaminée par la radioactivité. Josef Regetz avait 21 ans à l'époque. Jeune coureur promis à une belle carrière, il a participé à cette fameuse course de la paix dont il a même remporté la première étape dans la capitale ukrainienne et porté le maillot jaune de leader. Mais 20 ans plus tard, souffrant d'un cancer, Josef Regetz dut se soumettre à une ablation d'un rein. Y avait-il un lien de cause à effet avec sa participation à la course de la paix irradiée? C'est la question que Josef Regetz, aujourd'hui sénateur et père de 4 enfants, s'est posée à l'annonce du diagnostic. Une question qui restera probablement à jamais sans réponse, mais qui n'en demeure pas une bonne raison pour s'imposer d'autres sur l'atmosphère qui régnait alors en Tchécoslovaquie et en Ukraine autour de cette édition 1986, tristement célèbre, de la course de la paix. Et ces questions, Guillaume Narguet les a donc posées à Josef Regetz.
Sport en République tchèque.
Josef Regetz in der letzten Kurve, die letzten 100 Meter, und sollte er das schaffen, auch diese Etappe noch zu gewinnen? Sollte er das schaffen, Regetz immer noch vorn, Sanchez kämpft, Torres geschlagen, Josef Regetz gewinnt, das ist ein Kerl!
Le contexte était très particulier. C'est une période grise qui appartient maintenant à l'histoire et que l'on préférerait oublier. Mais pour ce qui est de ma carrière sportive, je dois bien reconnaître que cela reste aussi un très bon souvenir, même si la majorité des équipes des pays d'Europe de l'Ouest, mieux informées que nous, ont refusé de se rendre en Union soviétique. Nous n'étions plus qu'une bonne 60aine au départ, la moitié du peloton habituel, ce qui n'enlèverait en fait que nous, les Tchécoslovaques et les autres coureurs des pays satellites, nous sommes partis en Ukraine avec la course pour seule et unique préoccupation. Pour ce qui est du reste, nos dirigeants à Prague nous avaient bien fait comprendre que ce n'était pas notre affaire.
Si les équipes d'Europe occidentale, informées de la situation, ont donc sagement refusé d'envoyer leurs coureurs en Ukraine, de leur côté, les autorités soviétiques, elles, ont interdit aux représentants des pays satellites d'agir de la sorte et leur ont ordonné de s'aligner. Ce que Tchécoslovaques, Polonais et Allemands de l'Est, parmi lesquels le futur vainqueur de l'épreuve, un certain Olaf Ludwig, firent donc. Tous se rendirent ainsi à Kiev et pas forcément à reculons, à en croire Josef Regetz.
Vous savez, comme la plupart des autres sportifs de haut niveau en Tchécoslovaquie, nous étions des militaires en service. Cela signifie que lorsqu'un ordre nous était donné, il était dans notre intérêt de le respecter. Et l'ordre était précisément de participer à la course. Mais de toute façon, nous, coureurs, avions envie d'y aller. Pour 3 d'entre nous, c'était la première course de la paix. Ce n'était pas rien. Nous nous voyons donc mal devoir rester à la maison, surtout que nos dirigeants nous avaient assuré que nos vies et notre santé n'étaient pas menacées.
Vingt-huit ans plus tard, la maladie derrière lui, Josef Regetz considère forcément la réalité de l'époque d'un œil différent de celui qui était le sien en 1986. Il affirme même ne pas avoir hésité sur la décision à prendre.
Donc, ça, moi, j'aime bien...
Dire non était le plus simple que nous aurions pu faire. Mais à vrai dire, je n'ai même pas réfléchi à l'éventualité de ne pas y aller. C'était le début de ma carrière et pour les coureurs de l'Est, la course de la paix était le grand rendez-vous de la saison. C'était la chose la plus importante pour moi. C'était mon rêve qui se réalisait et la concrétisation de pas mal de boulot. J'avais 21 ans, franchement, peu m'importait des éventuelles conséquences pour ma santé. Et puis, refuser aurait signifié la fin de ma carrière.
Joseph Regetz ne s'en cache pas. Obnubilé par sa carrière, si c'était à refaire cette course, il la referait. Surtout que pas plus que ses compatriotes, il n'avait idée de l'ampleur de la catastrophe.
Comme le gros de la population en Tchécoslovaquie, pas grand-chose. Les médias s'étaient contentés du strict minimum, même si nous avions quand même accès à certaines informations de l'étranger par la radio ou la télé allemande et autrichienne dans les régions frontalières. Mais il était difficile de faire la part des choses, on entendait tout et son contraire. Nous sommes donc partis en Ukraine en sachant qu'une centrale nucléaire avait explosé. Il se disait qu'il aurait été préférable de ne pas y aller et d'annuler la course. Nos dirigeants, eux, nous ont assuré qu'il n'y avait pas de risque particulier pour notre santé. De toute façon, compte tenu de la situation politique et du fait que le départ devait être donné en Union soviétique, il était impossible d'annuler quoi que ce soit. Et en tant que représentant d'un pays frère, notre rôle était aussi de montrer que rien de grave ne s'était passé.
Sur place, selon Joseph Regetz, tout avait l'air normal. Il n'y avait pas de chaos, on ne sentait rien de spécial non plus dans l'air, on respirait normalement. Les gens semblaient se comporter comme si de rien n'était dans la rue, les enfants jouaient dans les parcs. Je pense que la majorité d'entre eux n'étaient pas au courant de la gravité de la situation. J'imagine que comme chez nous, rien ou presque n'avait filtré dans les médias. En fait, je crois qu'ils vivaient dans l'ignorance la plus totale, affirme Joseph Regetz. Les sportifs, eux, ont été soumis à des tests pour mesurer leur irradiation dès leur descente d'avion, puis ensuite chacun des 4 jours de leur séjour en Ukraine. Le dosimètre sifflait, mais on nous a toujours affirmé que nos taux ne dépassaient pas une certaine limite. Nous n'avons pas cherché plus loin, explique Joseph Regetz. Jusqu'à ce qu'un cancer du rein soit diagnostiqué en 2006, alors y a-t-il selon lui un lien de cause à effet avec sa participation à la course ?
Je ne peux pas l'affirmer. Je me suis soumis à tout un tas d'analyses après l'annonce du diagnostic, mais je n'ai pas trouvé un seul médecin pour me confirmer ou m'infirmer cette thèse. Cela m'intéresse bien sûr, mais au fond, cela ne change pas grand-chose non plus. De toute façon, qu'aurais-je fait ? Attaquer l'État en justice 20 ans après, les régimes ont changé. Beaucoup des responsables de l'époque ne sont plus là aujourd'hui. Et puis encore une fois, comment démontrer que la cause de la tumeur était Tchernobyl ? Impossible.
Ale to mě už nikdo dneska po té době není schopen potvrdit ani vyvrátit.
Ainsi s'achève notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous a été présenté par Lucie Drexelová. Retrouvez tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Ahoy. Et pour tous ceux qui nous écoutent en direct, nous nous quittons sur des chansons de Dagmar Andrtová-Voňková.
Vyťukává na zeď těla, smluvená znamení. Vězeňsky chápem, co nám chtěla, vždyť chceme vše, čím zní. Však někde sám, sám bez anděla, bez stopy tmy i dní, dech se větce plně živ. Ví, jak nebýt ohraničen. Však někde
někde sám, sám bez anděla, bez stopy tmy i dní. Dech se větce plně živ, ví, jak nebýt ohraničen.
Ještě nade mě hoří utažený